conférence privée par le père Philippe à Rimont, le 22 janvier 1988.
On m'a reposé la question, quel était le vieillard qui venait auprès de Jean quand il était en pleurs. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici qu'il est vainqueur. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, il ouvrira le livre et les sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants, et au milieu des vieillards, un agneau debout. Vous voyez, le rôle de Jean-Baptiste, c'est toujours de montrer l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste, je suis persuadé, parce qu'il fait partie des 24 vieillards, vous comprenez bien. Les 24 vieillards, c'est ceux qui, dans le gouvernement divin, ont un rôle particulier. Il y a un lien entre Jean et Jean-Baptiste, un lien entre Jean-Baptiste et l'agneau. Donc c'est normal, le voici l'agneau de Dieu et puis l'agneau dans le ciel, celui qui porte l'iniquité du monde. Et donc celui qui, par le fait même, est responsable de toute l'iniquité du monde. Il a tout porté en face du Père et il était victorieux et c'est pour ça qu'il est capable d'ouvrir les sceaux. Je présume que vous avez tout compris. Je ne vois pas de papier, donc je me dis ils ont tout compris. C'est bien. Il ne faut pas vous obliger d'en écrire. Hein. Je dis ça simplement que si certaines questions se posent, n'hésitez pas. Et les questions, elles sont nombreuses. Hein. Quand on voit la signification du sixième sceau, vous voyez, ce qui est important, c'est de voir que c'est toujours l'angoisse qui est le signe ultime, dernier, avant le retour de Jésus. Jésus lui-même le dit dans l'Évangile. C'est pas la guerre, c'est pas les famines, mais c'est l'angoisse. C'est-à-dire ce repli sur soi, qui n'est pas toujours volontaire, vous voyez, même souvent il n'est pas volontaire du tout, parce que quand vous êtes angoissé, ça vous tombe dessus. Et c'est net que c'est cette angoisse qui saisit tout le monde. Et alors, on montre que malgré cette lutte interne et externe, malgré cette fureur du démon, Dieu, par son esprit, continue son œuvre. Et alors, ce sont les élus. Alors, vous voyez, quand on met intermède, le nombre et le sort des élus de Dieu, ce n'est pas tout à fait un intermède, vous voyez. Je regrette. C'est la vision au-delà des apparences. C'est ça qui est extraordinaire dans l'Apocalypse. Et c'est ça qu'il faut apprendre à saisir. L'Apocalypse nous éduque. Nous éduque de vivre. L'Église militante, hein, c'est une parole divine qui nous est adressée et qui est efficace et qui nous apprend à dépasser les choses visibles, les luttes. On est tous dans les luttes. Et on sait très bien que se mettre en dehors de la lutte, ce n'est pas se mettre dans la volonté de Dieu. On n'a pas à se précipiter au cœur de la lutte. La lutte vient vers nous. Donc ne la cherchons pas. Mais n'ayons pas peur de la lutte. Et sachons que Jésus est ressuscité et le cheval blanc est présent en nous. Et donc la victoire du Christ est présente. Et alors c'est cette victoire du Christ dans son point ultime qui est cette vision des élus. Donc, ce pourquoi la prédestination existe, c'est pour le nombre des élus. Et si nous acceptons de lutter pleinement, c'est pour vivre ce que Jésus a vécu. Si Jésus avait épargné à Marie la lutte, si Jésus avait épargné à l'Église, et donc pour chacun d'entre nous la lutte, nous serions sauvés comme des enfants qui reçoivent tout gratuitement, mais nous ne serions pas des épouses et des amis. L'épouse, c'est celle qui fait l'œuvre de l'époux à sa manière. L'ami, c'est celui qui coopère avec son ami. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce grand mystère de la prédestination. Pourquoi Dieu laisse-t-il toutes ces luttes? Et il laisse toutes ces luttes pour que la grâce surabonde. Et que nous soyons, chacun d'entre nous, des coopérateurs du Christ. Que nous soyons, chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans la fidélité à la volonté du Père, ceux qui vivent le même mystère que le Christ et que le Christ crucifié. Donc, je vous disais d'être très attentif à ces six dimensions, la septième, nous ne l'avons pas encore eue, à ces six dimensions qui sont peut-être des clés pour la lecture de toute l'histoire sainte du peuple d'Israël et l'histoire de l'Église. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Alors il faut essayer, on essaiera une fois de bien comprendre ça. Alors après, toutes les tribus, les 12 tribus qui sont nommées, et chacune 12 milliers, vous comprenez bien que ce chiffre est symbolique. Il veut dire un chiffre parfait. Il y a sûrement plus que 12 milliers de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad, et ainsi de suite, et de la tribu du Benjamin. 12 milliers étaient marqués. Marqués d'un sceau sur leur front, les esclaves de Dieu. Vous voyez, c'est bien à l'intérieur même de la prédestination, cette marque du sceau. Et d'une certaine manière, ça rejoint le cheval blanc. Je ne pourrais pas comprendre ce chapitre 6 si j'interprétais le cheval blanc autrement que la victoire du Christ. C'est la victoire du Christ qui perdure. C'est la victoire du Christ qui demeure présente. C'est la victoire du Christ qui se sert de toutes ces luttes pour que, de fait, nous soyons pleinement des élus. Alors, après les 12 tribus, chacune bien marquée du sceau, voici une foule innombreuse que nul ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, et peuple et langue, debout devant le trône de l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes dans leurs mains. Alors ça, c'est bien la signification de la victoire. C'est les martyrs, d'une certaine manière. On sera tous martyrs sous ce point de vue-là, du fait même qu'on est victorieux du combat. Et le combat n'est pas toujours, vous voyez, quand il tue à l'extérieur, ça c'est visible, mais il peut tuer beaucoup plus profondément. On peut être marqué du combat de façon beaucoup plus profonde et intérieurement sans qu'il y ait de marque extérieure. C'est comme pour les stigmates du Christ. Il y a des stigmates intérieurs, ne dites pas que vous êtes stigmatisé intérieurement, n'est-ce pas, parce que personne ne peut le vérifier, que c'est beaucoup plus parfait que si vous étiez stigmatisé d'une façon visible. J'ai connu quelqu'un qui disait ça. C'est pour ça que je le répète, je ne l'aurais pas inventé. Mais, qui disait, vous comprenez, mon père, c'est bien plus parfait. Parce que les stigmates visibles, on a une certaine satisfaction. Tandis que les stigmates invisibles, on n'en a pas. Et c'est bien plus divin. La Sainte Vierge a été marquée des stigmates invisibles. Évidemment, j'avais rien à dire là-dessus. C'était plus difficile lorsqu'elle disait qu'elle était elle-même stigmatisée. On vous rencontrerait des personnes qui diront, il y en aura de plus en plus. qui diront ça. C'est sûr, plus on s'approche du terme, plus les charismes se multiplient. Alors à ce moment-là, il faut tout simplement le discernement de l'obéissance. C'est la seule chose qui permet de voir si c'est vrai, authentique ou pas. Parce qu'il peut y avoir des prodiges très exceptionnels. Le cardinal Philippe, dominicain que j'ai bien connu, m'a raconté plusieurs histoires où il était envoyé par Rome pour discerner si c'était des charismes authentiques ou pas. Il a vu une fois une religieuse qui, le vendredi, vivait la passion de façon, paraît-il, de façon extrêmement spectaculaire. Vivait, entre autres, l'agonie. Et des gouttes de sang coulaient. Et on mettait de la ouate en dessous et que le sang était brûlant et brûlait la ouate. C'est quelque chose d'impressionnant. Évidemment. Alors, là aussi, la seule manière de voir si c'est authentique ou pas, c'est l'obéissance. Il y a eu l'épreuve de l'obéissance. On a vu que c'était une supercherie du démon. Et la personne dont je vous disais, les stigmates intérieurs, là c'était moins visible, moins spectaculaire, mais c'était la même chose. Je lui demandais moi de... Parce qu'il y avait tout un groupe autour d'elle qui assistait à ses extases. Très bien, tout le monde priait, on priait pendant ça là. Mais il y avait un petit danger, vous voyez, c'est de se laisser trop prendre par un point de vue extérieur. Alors je lui ai demandé de se réfugier dans un carmel. Alors elle m'a dit oui, très bien. Puis deux jours après, elle m'est revenue en me disant, ah non mon père, non, je peux pas, je dois rester ici, parce que vous voyez, il y a tout un groupe de personnes que je soutiens et que j'aide. Elle me dit, si vous ne m'obéissez pas, je vous dis que je ne peux plus m'occuper de vous. Elle me dit, ah, je crois que je dois rester. Je dis, bon, très bien, ça c'est votre conscience, je ne veux pas aller contre votre conscience. Mais je vous dis que je ne peux plus m'occuper de vous. Après, elle s'est mise à prophétiser. Par rapport à Icone, en disant que c'était des bénis de Dieu, que c'était merveilleux, étonnant. Je ne sais pas comment elle a terminé, mais c'est terrible, hein, c'est terrible parce que souvent c'est le contexte extérieur qui est plus terrible que la personne et est un peu victime du contexte extérieur. C'est très souvent comme ça. Donc, ils perdent leur identité. Par contre, quelquefois, c'est authentique. Je vous ai tous raconté, je crois, cette histoire-là. C'était à Colmar, chez les Dominicaines. C'est pas Colmar même, c'est tout près de Colmar. Chez les Dominicaines, je prêchais la retraite. Et la mère supérieure m'a montré un petit crucifix merveilleux, très beau. Petit crucifix, pas plus grand que ça. Il était dans le cloître. Et alors, elle m'a dit, vous savez, toute cette histoire de ce crucifix. Je dis non, je ne savais pas, parce que je ne connaissais pas suffisamment l'histoire de ces dominicaines. Alors elle m'a raconté que c'était au XVIe siècle, qu'une religieuse, chaque fois qu'elle passait devant ce crucifix, elle tombait en extase. C'est très gênant pour la prieure. Et alors la prieure dit, écoutez, ne passez pas, parce qu'elle dit que c'est devant ce crucifix qu'elle tombait en extase. Elle dit, mais le cloître, on peut peut-être passer de l'autre côté. Alors passer de l'autre côté, pour ne plus être en face de ce crucifix et tomber en extase, parce que ça gêne un peu la circulation. Alors, très bien, elle a été très obéissante, elle est passée de l'autre côté. C'est tout, il n'y avait plus d'extase. Elle en souffrait terriblement. Et elle obéissait. Et alors, au moment de la visite canonique, où il y avait le père provincial dominicain avec un autre père, la mère prieure a raconté cette histoire. En disant, mon père, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai fait, je ne sais pas, est-ce que j'ai bien fait, je ne sais pas, mais c'est très difficile, vous comprenez, dans la communauté, c'est pas commode. Puis ça commence à se savoir. Faut qu'on reste caché. Alors, Père Brozel dit, ne vous inquiétez pas, nous allons voir, tout simplement. Je crois que c'était au milieu de la visite canonique. Et alors, le père provincial a demandé qu'on vienne chercher le petit crucifix, on l'a amené, comme on me l'avait amené. Puis il a demandé, à ce moment-là, je demande à la mère prieure de chercher cette religieuse. Alors, il tenait le crucifix dans ses mains. Et la religieuse est arrivée. Quand elle a vu le crucifix, elle est tombée en extase. Et d'une manière telle qu'elle en est morte. Elle est morte là, en face du crucifix, en extase. C'est relaté exactement ce que je vous dis là. C'est assez impressionnant. Oui, l'obéissance. Elle est morte dans l'obéissance, en extase. Donc, vous voyez, quand il y en aura ici, voilà comment il faut faire. Hein. Je crois que c'est très juste, parce que c'est très difficile, vous comprenez, s'il y en a un qui tombe en extase, toujours en passant devant tel crucifix, je comprends très bien que la supérieure dise non, il vaut mieux pas. C'est charismatique, un extase. C'est, donc, au point de vue des vertus théologales, on peut s'en passer. Bon, c'est sûr. Et si l'obéissance augmente et intensifie le désir d'aimer Dieu, c'est encore plus grand. Et à ce moment-là, l'obéissance monte, si c'est authentique ou pas. Alors, voyons le nombre des élus, voyez. Et le nombre des élus, c'est justement la robe blanche, toujours le blanc, signe de la victoire, avec des palmes dans leurs mains. C'est les martyrs. Martyrs sanglants ou martyrs non sanglants. Et ils crient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre vivants. Ils tombèrent devant le trône sur leur face et se prosternèrent devant Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force soient à notre Dieu pour les éternités d'éternité. Alors vous voyez, il faudrait ici cette proclamation, hein, les anges, qui disent Amen et qui proclament la louange. Il y en a sept, hein, vous voyez. Alors, est-ce que ça correspond aux sept dons du Saint-Esprit? C'est possible. Il faudrait voir. La louange, l'honneur, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur et la puissance et la force sont à notre Dieu. La sagesse et la force, c'est facile de comprendre. Et les autres pouvaient facilement comprendre l'action de grâce. Ça relève, je crois, du don de piété d'une certaine manière. l'honneur et la puissance à notre Dieu. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux-là, qui sont vêtus de robes et de robes blanches, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ?» Et je lui dis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Jean est toujours très très poli vis-à-vis du vieillard. Alors, est-ce que c'est encore Jean-Baptiste, le vieillard qui accompagne Jean ? C'est possible. C'est moins immédiat ici. Hein ? Ce sont ceux qui viennent de l'affliction, la grande. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Pour Catherine de Sienne, le sacrement de pénitence, c'est blanchir sa robe dans le sang de l'agneau. Et c'est vrai, c'est le mystère de la croix et de la rédemption. Ce sont ceux qui viennent de l'affliction, la grande affliction. Donc ceux qui sont en première ligne dans le combat, c'est ça la grande affliction. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Voici pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente au-dessus d'eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les guidera vers les sources d'eau de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Mais décrire ce que représente la gloire éternelle, on la décrit de cette manière simple, négative. Celui qui est assis sur le trône dressera une tente au-dessus de... La tente, c'est toujours le lieu du repos, hein, et le lieu de la rencontre avec Dieu. Alors ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne le frappera pas, et aucune chaleur brûlante. Vous voyez, tout est négatif, hein, c'est les trois aspects négatifs, pour montrer quelque chose qui dépasse, qu'on ne peut pas dire. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les guidera vers les sources d'eau de la vie. C'est l'agneau qui conduit vers les sources d'eau de la vie. Alors évidemment, c'est le Père. L'agneau conduit vers le Père. Et au fond, on peut dire aussi Marie. C'est la très sainte Trinité. C'est le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de larmes dans le ciel. Et si vous pleurez beaucoup sur la terre, dans le ciel, le Père viendra essuyer toutes les larmes. Et Dieu essuiera toutes larmes sur leurs yeux. Si vous ne pleurez pas sur la terre, le Père ne pourra pas essuyer vos larmes. C'est la consolation merveilleuse de montrer que cette béatitude est au-delà de toutes les luttes. Il n'y aura plus de lutte. Il n'y aura plus qu'un amour et une lumière. Bon, c'est net, c'est cette vision du ciel au milieu des luttes. Et lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il faut l'inventer, dire une chose comme ça. C'est extraordinaire, ça. C'est pour montrer la fin. Le septième sceau, on entre dans le ciel. Le silence, il n'y a plus de lutte. Il est dans le ciel, donc dans la contemplation, un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Il leur fut donné sept trompettes. Alors, vous voyez, on entre ici dans le second moment de l'Apocalypse, les trompettes. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de donner le symbolisme des trompettes que de donner le symbolisme des sceaux. Les sceaux, quand on a compris que c'était le mystère de la prédestination, c'est relativement facile. Tandis que les trompettes, c'est l'exécution. C'est l'exécution des trompettes. Et parce que c'est l'exécution, c'est extrêmement difficile de voir qu'est-ce que ça signifie. Et quand, à cause de la tempête, vous recevez une tuile sur la tête, est-ce que c'est le démon qui se sert du vent pour vous jeter une tuile sur la tête? Ou est-ce que c'est tout simplement les lois de la nature? Vous auriez dû être un peu plus prudent, savoir qu'avec le vent et les cyclones, il peut y avoir de terribles accidents. C'est bien, en Bretagne, il y a eu des choses invraisemblables. Quand on va en Bretagne, quand on vous raconte tout ce qui s'est passé avec ce cyclone, invraisemblable. De mémoire d'âne, ils n'ont jamais vu ça. C'est vrai, j'ai jamais vu ces choses-là. Ce sont des signes apocalyptiques. Ça, c'est sûr. C'est des choses invraisemblables. C'est inouï. On m'en a raconté. On passerait longtemps à raconter toutes ces histoires. Mais c'est vrai. Et des choses qu'on n'a jamais vues. Et en Angleterre aussi. Et c'est passé d'une façon rigoureuse, hein, comme un cyclone. Vous avez déjà vu le passage d'un cyclone dans une forêt? C'est très émouvant. Toute une série qui tombe. C'est tout. Et à côté, rien. Alors, les trompettes, hein, c'est l'exécution. Et l'exécution, c'est très difficile de discerner si c'est de Dieu ou si c'est du démon. Je crois qu'on ne peut pas. L'illuminisme consiste à dire oui, c'est ça, ça, ça c'est de Dieu, pour être sûr. C'est de Dieu quand ça tombe sur la tête d'un de vos ennemis. Mais quand ça tombe sur la tête d'un de vos amis, ou sur vous-même, c'est Satan. Vous voyez, c'est très gros comme discernement, n'est-ce pas ? Mais c'est comme ça, le fait que les gens discernent. Alors qu'on ne peut pas. Alors vous voyez dans quel contexte, hein, c'est ça qui m'intéresse, environ. Donc, lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence, dans le ciel, environ d'une demi-heure. C'est la fin des sceaux, ça se termine en Dieu, dans l'éternité. Parce que la demi-heure, c'est symbolique d'un long temps. Alors maintenant, et je vis, il faudrait mettre à la ligne. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et il leur fut donné cette trompette. Donc ce sont des anges qui se tiennent devant Dieu. Ce sont des anges saints et contemplatifs qui se tiennent devant Dieu. Et on leur fut donné cette trompette. Donc, ceux qui vont souffler dans les trompettes, c'est des contemplatifs, c'est des anges. Ça vient donc directement de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu tout d'un coup permet aux démons d'agir? On va essayer de voir. Et un autre ange vint et se plaça près de l'autel avec un encensoir d'or. Ça, un ange liturgique, vous voyez. Parce qu'il y a toute une liturgie, c'est ça qui est très important. Toujours, avant, il y a une liturgie. Tout s'exécute dans une liturgie. L'Apocalypse, c'est un très grand livre liturgique, vous voyez. Vous avez vu, pour les sceaux, il y a d'abord tout un... J'allais dire que c'est plus doctrinal pour les sceaux. Hein. Il y a les pleurs de Jean, quand même. C'est liturgique, ces pleurs. Il pleure pour bien montrer que l'ouverture des sceaux dépend du bon plaisir du Père et que seul l'agneau peut les ouvrir. Ici, vous avez la liturgie du temple. Un autre ange vint et se plaça près de l'autel avec un encens d'or, un encensoir d'or. Il lui fut donné beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alors quel est cet ange ? Là encore. Un autre ange, un rôle très unique. On essaiera de comprendre petit à petit, parce que c'est mystérieux ce rôle de ces anges. Et la fumée des parfums monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. Donc, tout se réalise à travers la prière des saints. Et à travers ce parfum céleste. Et un ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel. Et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et une secousse. Les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Alors, vous voyez cette chose mystérieuse de cet encensoir. Quand vous prenez l'encensoir, n'oubliez pas qu'il y a un encensoir céleste, apocalyptique, et que notre petit encensoir de la terre est un écho de cet encensoir céleste. Alors, est-ce que c'est la Vierge Marie ? Ça ne m'étonnerait pas avec un encensoir d'or. Et la médiation de Marie par rapport à la prière des saints. Ça ne m'étonnerait pas du tout que ce soit cette médiation de Marie qui soit représentée ici de cette manière si curieuse. Et en même temps si belle, parce que c'est toute la prière des saints qui va envelopper ce que nous allons voir. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit de feu de l'autel. Le feu de l'autel, c'est l'amour du cœur de Jésus. C'est l'amour qui jaillit du cœur de Jésus. Il le jeta sur la terre. Vous voyez la médiation de Marie, c'est extraordinaire. Elle offre la prière des saints. Elle donne un sens à la prière des saints. Elle achève la prière des saints. Pensez à ce que Saint Grignon Montfort dit. Les pauvres petits paysans, ils offrent des pommes. Et Marie met un beau plat d'argent pour présenter les pommes. C'est exactement ce qu'il montrait ici. Nous prions, mais notre prière n'a de vrai sens et de vraie valeur que parce qu'elle passe par Marie. Et là, vous avez la médiation ascendante et la médiation descendante. C'est pour ça que je crois que c'est la médiation de Marie, ça, qui est représentée de cette manière-là. Tout le mystère des trompettes est enveloppé de la prière de Marie. Marie veille. Et plus la lutte est forte, plus Marie est présente. Mais Marie veille. Alors, le feu de l'autel, il le jeta sur la terre. Le feu de l'autel, donc c'est tout l'amour qui est dans le cœur de Jésus. Et alors, immédiatement, tonnerre, voix et éclair. Ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est toujours fortiter et suaviter. Alors, tonnerre, c'est fortiter. Les voix, c'est suaviter. Et les éclairs, c'est les deux. L'Esprit Saint éclaire, l'Esprit Saint agit avec une très grande douceur, mais il agit avec une force et une secousse. Je crois que nous pouvons comprendre ce moment très important, ce moment très important qui est de voir comment les trompettes et le son des trompettes se réalisent dans tout ce contexte de prière. Et le premier sonat de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. Vous comprenez que ça ne peut pas être l'action d'un bon ange. Donc, ça fait partie de ces permissions de Dieu. Dieu se sert de la fureur du démon contre notre petite planète et contre nous. Si le démon pouvait, il anéantirait tout de suite notre petite planète. Mais tout de suite, ça se ferait immédiatement. Ça ne durerait pas longtemps. On ne peut pas supporter que nous soyons les amis de Dieu, que nous soyons le chef-d'œuvre de Dieu. On ne peut pas supporter ça. L'univers est insupportable pour le démon. Ça, on le verra bien, vous allez le voir progressivement, on voit bien. Ici, on ne le nomme pas. Nous sommes dans l'exécution. Et donc, le démon est caché. On voit que les effets. La trace. Le démon ne se nomme pas ordinairement. Il agit. Et c'est très bien. Il agit de façon bien plus efficace quand il ne se nomme pas. Il se nomme que quand il est forcé, quand il est sommé de se nommer. Thomas ne se nomme pas. Il est dans les ténèbres. Et alors je crois que là, vraiment, nous sommes en présence de cela. Et Dieu se sert de ça comme une purification. De la grêle et du feu mêlé de sang. Du feu mêlé de sang. Vous voyez, on retrouve quand même quelque chose d'analogue à ce point de vue-là. Des plaies d'Égypte, de Moïse. C'est à mettre un peu en parallèle. Mais les plaies d'Égypte, c'est Dieu qui agit par Moïse pour que le cœur du Pharaon libère le peuple d'Israël. Et je crois qu'ici, Dieu agit bien. C'est bien. La trompette, c'est un bon ange qui la sonne. Le premier sonna de la trompette. Il eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Qui furent jetés sur la terre. Là, c'est symbolique. Qu'est-ce que signifie la grêle symboliquement? Et le feu mêlé de sang. La grêle, vous savez bien. La grêle, c'est ce qui vient briser, arracher. Les premières pousses ou les ultimes pousses. La grêle sur les feuilles, la grêle sur les fruits. C'est toujours à ces moments-là que la grêle est terrible. Et le tiers de la terre fut consumé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. C'est contre la vie. Alors le tiers, c'est un chiffre symbolique, encore une fois, qui montre que cette action néfaste est mesurée par Dieu. On ne peut pas la dépasser. Un tiers, c'est déjà beaucoup. Et le deuxième ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne brûlée par le feu fut jetée dans la mer. Et quelque chose comme une grande montagne. Fut brûlée par le feu, fut jetée dans la mer. et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Après la terre, c'est la mer. Mais comme c'est difficile, un point de vue symbolique. Et le troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme une torche. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile se dit Absinthe. Alors là, vous savez bien comment on a pu désigner cela encore récemment. C'est toujours... c'est très curieux, hein. Comme c'est... L'Apocalypse marque l'imagination des gens. Il y a de quoi, je comprends, du reste. Cette étoile, une grande étoile qui brûlait comme une torche. Alors les étoiles, hein, les étoiles, je vous ai déjà dit, symbolisme des témoins de la vérité, des théologiens, de ceux qui sont les témoins de la vérité. Tomba du ciel une grande étoile, parce que c'est pas, vous comprenez, c'est pas une réalité physique, une grande étoile qui tombe sur la terre, il restera plus grand chose, hein. Une grande étoile qui brûlait comme une torche. Alors on dirait étoile filante, vous voyez, ça tout de suite, elle brûle comme une torche. C'est pas ça du tout, ça c'est un langage symbolique. Que signifie l'étoile? Que signifie une grande montagne brûlée par le feu? Qu'est-ce que ça signifie, tout ce langage symbolique? Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile se dit Absinthe. Là aussi, c'est symbolique. Et le tiers des eaux tourna en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux parce qu'ils étaient devenus amers. L'amertume. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, pour qu'ils s'obscurcissent d'un tiers, et que le jour ne brûlât plus que d'un tiers, et la nuit pareillement. Et c'est très mystérieux. Les trompettes donnent le signe des permissions de Dieu. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Alors les symbolismes, c'est différent de ces différents effets successifs, mais on les dit successivement, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est successif. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Qu'ils s'obscurcissent. Et je vis, et j'entendis un aigle volant au zénith dire d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre. » Alors ceux qui habitent sur la terre, on dirait aujourd'hui, ceux qui mettent leur fin sur la terre. Ils habitent la terre. Les matérialistes, si vous voulez. Tous ceux qui trouvent la finalité uniquement sur le point de vue de l'efficacité de la terre. Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette, des trois anges qui vont sonner. Malheur à cause de ce qui va venir. Autrement dit, on annonce quelque chose d'encore plus terrible. Et le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui du ciel était tombée sur la terre. Et lui fut donnée la clé du puits de l'abîme. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme une fumée de grande fournaise. et le soleil et l'air furent entièrement enténébrés par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent des sauterelles sur la terre. Alors là, ça commence, hein. C'est de plus en plus difficile à saisir, hein. Ça symbolise des sauterelles qui sortent de la fumée. Fédération spontanée. Et il monta du puits une fumée, comme une fumée de grande fournaise. Et le soleil et l'air furent enténébrés par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent des sauterelles sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et là, ici, on voit la protection de Dieu. Il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Et leur torture est comme la torture du scorpion quand il pique l'homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir. Et la mort fuit loin d'eux. Et voici à quoi ressemblaient les sauterelles. Elles étaient semblables à des chevaux prêts pour la guerre. Sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme celles de lion. Et elles avaient des thorax comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à nombreux chevaux courant à la guerre. On en ajoute, hein. Extraordinaire. Que des applications. Pendant la dernière guerre, tu vois, il y a eu des revues à propos des avions sirènes du début de la guerre. On les montrait exactement comme la réalisation de ça. Et alors, c'est toujours ça, ces réalisations-là. Vous voyez, ça, c'est matériel, c'est pas ça du tout que ça veut dire, vous comprenez. Tout ça est symbolique. Un langage symbolique, c'est sûr, c'est pas du tout à prendre matériellement. Si vous voulez prendre matériellement, regardez alors la tapisserie d'Angers, vous avez tout réalisé, et vous ne verrez jamais ça. Il y a un fond, comme toujours dans le symbolisme divin, il y a un fond réel, et c'est symbolique. Ils ont des queues semblables à des scorpions, et des dards, et dans leur queue est leur pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles ont sur elles, pour roi, l'ange de l'abîme. Son nom en hébreu est Abdon. Et en grec, il a un nom Apollyon. Le premier malheur s'en est allé. Voici qu'il vient encore 2 malheurs après cela. Et on comprend très bien que lire ça le soir de l'Apocalypse, ça va vous donner des rêves extraordinaires, disons, de scorpions, de... C'est curieux. Hein. Curieux que la parole de ces paroles de Dieu révélées hein, pour nous. L'imagination puissante de Jean, du vieux Jean, quand il avait 80, 90 ans. Et le sixième ange sonna de la trompette. Parce que c'est tout le cycle des trompettes. Hein. Ça se tient. Il y a le cycle des sceaux, les trompettes. Vous voyez comme c'est difficile hein, de préciser quelque chose dans ce labyrinthe. Et le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et elle disait au sixième ange, celui qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges qui se tenaient prêts pour l'heure et le jour, et le mois et l'année, furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers en campagne était de 2 myriades de myriades. J'entendis leur nombre. Et voici comment, dans ma vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils ont des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux sont comme des têtes de lion. Et de leur bouche, il sort du feu. Et de la fumée et du soufre. Par suite de leurs trois plaies, par suite de ces trois plaies, fut tué le tiers des hommes par le feu et la fumée et le soufre qui sortent de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Car leurs queues sont semblables à des serpents et ils ont des têtes. Et c'est par elles qu'elles nuisent. Et les autres hommes, qui n'avaient pas été tués avec ces plaies, ne se repentirent même pas des œuvres de leurs mains, pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, et de bronze, et de pierre, et de bois, qui ne peuvent ni regarder, ni entendre, ni marcher, et ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leur sacrilège, ni de leur fornication, ni de leur vol. Vous voyez, les punitions de Dieu, si terribles qu'elles soient, l'homme ne comprend pas, son cœur s'endurcit. C'est ça que ça veut montrer. Alors on dit intermède. Avant le chapitre 10, je vais m'arrêter maintenant, parce que on va essayer, parce que le chapitre 10, intermède, c'est très très beau, cet intermède. Il faut avant essayer un tout petit peu d'entrer dans ces symbolismes. Mais c'est très difficile. C'est très difficile, vous voyez, parce que c'est... Je crois que ce que ça veut nous faire montrer, c'est les permissions successives de Dieu sur notre petite habitation. Petite planète sur les hommes. Tout ça était vrai du temps de Saint Jean. C'est encore beaucoup plus vrai maintenant. Et ce sera toujours plus vrai. C'est ça que montre l'Apocalypse. C'est que la lutte ne cesse d'augmenter, de s'intensifier. Et toujours le chiffre 6. Donc il y a une progression jusque 6. 6 touche un sommet, 7, on y est. Et ça, c'est très très net. Alors, vous pouvez l'interpréter de diverses façons, mais c'est toujours la même chose qui se montre, c'est que, de fait, la lutte augmente tout le temps. Et les permissions de Dieu sont de plus en plus grandes. C'est ce qu'on voit. Quand vous regardez le début du siècle et maintenant, la lutte ne cesse d'augmenter. Et je crois qu'on a le droit de le dire, qu'elle n'a jamais été aussi forte. Selon l'Apocalypse, est net. Alors surtout si on est sur le chiffre 6, vous voyez. Je ne sais pas comment, mais si on est sur le chiffre 6. C'est de fait, c'est ça qui marque notre monde d'aujourd'hui.